La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
8h42 sur Radio Classique, l'heure de retrouver nos esprits libres. Ruth Elkrief, éditorialiste à LCI. Bonjour Ruth.
Bonjour David et bonne année.
Et merci, bonne année à vous et maître Sophie Obadia. Bonne année Sophie.
Bonne année David.
On s'était pas vu depuis longtemps ou depuis fatigué comme disent certains. Mesdames, succombez-vous au charme de la jeunesse et de la précocité?
Peut-être pas de la jeunesse et de la précocité, mais de l'art de la politique et du talent évident, incontestable de Gabriel Attal, je ne succombe pas, mais je suis intéressée.
Alors justement, Ruth, on dit voilà, précoce en politique, du talent, surdoué, etc. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Si on considère que la politique est un métier, qu'est-ce qui
un
fait...
Un don aussi, un talent.
Oui, alors justement, qu'est-ce qui fait le talent en politique? Mais on sait qu'un bon artisan va faire une très belle commode, une belle armoire, qu'il a le geste sûr, des outils bien rangés, bien entretenus. Qu'est-ce qui fait le talent en politique et à quoi vous, éditorialiste politique, qui connaissez la musique, si j'ose dire, vous avez repéré qu'il était bon ? Au-delà de tout ce qu'on peut dire, du déluge de compliments, etc. etc.
Écoutez, je crois qu'il sent l'opinion, il répond à l'opinion, il se saisit d'un certain nombre de sujets. Alors, on va pouvoir dire que c'est superficiel, que c'est pas assez approfondi, qu'il n'a pas encore de bilan, et tout ça est tout à fait vrai. Mais il a un lien et des capteurs qui, moi, me font dire que ça, c'est du talent. Ensuite, il sait le transformer. Et il sait le mettre en forme. Et quoi qu'on en dise, parler... en politique, communiquer, expliquer, être parfois humble et dire je me suis trompé, ou bien quand il fait à la fin de son premier point de presse de porte-parole, bon, c'était pas évident, est-ce que je me suis pas trop trompé?
C'est désarmant.
Mais oui, c'est juste quoi. Vous voyez, c'est juste. Et donc, je dis pas du tout que c'est formidable et qu'il va réussir et tout, mais je pense surtout qu'Emmanuel Macron n'avait aucun autre choix réel et que c'était sa survie, comme l'a dit Françoise Fressos dans Le Monde hier, et qu'il était indispensable pour lui de reconnaître qu'il avait enfin besoin de quelqu'un d'autre à ses côtés.
Sophie Obadia, elle est avocate, donc l'éloquence, elle sait ce que c'est, Sophie Obadia. Vous avez évidemment regardé hier la passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Elisabeth Borne. Qu'est-ce qui vous a frappé dans la déclaration du nouveau Premier ministre?
Alors d'abord, je pense que ce n'est pas un séducteur. Nous en avons un séducteur à la tête de l'État. Et c'est bien qu'il n'y en ait pas un deuxième. Je pense que c'est quelqu'un qui a une forme d'humilité. On sent chez lui quand même une petite fragilité qui, moi, me plaît. C'est-à-dire cette vulnérabilité dans le discours qui consiste à ne pas se présenter comme celui qui sait tout, vous l'avez dit, Ruth, c'est-à-dire qu'il peut hésiter. Ça peut plaire aux Français. Il tient ça aussi de Jean Castex, à mon sens. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a l'amour des Français, il a envie de que ça marche pour nous, et en même temps, il ne le dit pas de façon cynique ou de façon hyper séductrice. Et ça me plaît.
Ce qui m'a frappé, c'est que ce garçon a tout pour être arrogant. Il est allé très vite, il a été à des postes clés, il a été depuis longtemps un peu le chouchou d'Emmanuel Macron. Il y a quand même un désir d'humilité revendiqué dans les chemins de loyauté qu'il a rappelé. Il a remercié Castex, il a remercié évidemment Macron deux fois, Elisabeth Borne.
Pas deux fois, 5-6 fois. Beaucoup trop.
Et même Édouard Philippe. Philippe.
Oui, donc il a le sens, il a une reconnaissance pour les autres. C'est déjà un point.
L'humilité, c'est générationnel ou pas?
Il a du savoir-faire.
Non, je
sais pas. Est-ce que l'humilité est générationnelle?
Alors sans doute que, effectivement, je pense qu'elle est mieux enseignée qu'auparavant. Nous, quand nous étions dans nos écoles, l'humilité n'était pas le premier critère. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques ont compris que les Français veulent des gens qui leur ressemblent et qui disent qu'ils peuvent s'être trompés. Je rappelle par ailleurs que Gabriel Attal est celui qui, pendant le Covid, est venu expliquer aux Français, y compris sur les plateaux des chaînes dites non conformes, je pense à CNews, il était le seul à vouloir y aller. Il était le seul à vouloir parler à tout le monde. Et à mon sens, c'est également sa qualité. Et c'est en ça d'ailleurs que le Rassemblement National le craint, parce qu'il parle aussi à ses électeurs.
On va y venir, on va faire marcher la machine à remonter le temps. Comme il est jeune, la plupart des profs qu'il a eus sont encore vivants et enseignent, ce qui n'est pas le cas évidemment des sexagénaires ou des septuagénaires dont les profs parfois ont disparu ou sont en retraite. On écoute Marie-Hélène Bellac, elle enseignait à l'école alsacienne, elle a eu Gabriel Attal dans sa classe d'histoire et il était déjà très actif, était très passionné de politique, interrogé par Marine Salaville.
qui m'a surtout frappée, c'est qu'en 2007, il avait organisé à l'école une élection factice pour voir ce que les élèves voteraient, mais de façon extrêmement sérieuse, avec des bulletins de vote, des urnes, et c'était Bayrou qui avait été choisi. Et il avait demandé à Christophe Barbier de venir à l'école, et Christophe Barbier n'avait pas pu, et ben il avait été lui-même au journal pour enregistrer ses commentaires et pour en faire part à ses camarades. Donc il était très travailleur, très organisé.
Alors ma question est toute simple, là il y a tout nouveau, tout beau, il y a une obsolescence programmée, comme on parle des grippins ou des machines à laver, des premiers ministres sous la Ve République, celui-là va s'user à quel rythme d'après vous, Ruth ?
Alors c'est quelqu'un qui est quand même qui prépare beaucoup, qui pense toujours à l'étape d'après. Et je pense que cette fois, d'ailleurs, il a été un peu surpris. Et hier, dans son discours, qui était assez charpenté, il montrait un peu une forme de stress, une forme de pression, ce qui est tout à fait normal et humain, d'ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà réfléchi à ce qui est en train de lui arriver. Et donc, il va réfléchir à chaque étape, mais il peut être dévoré par la tâche. Parce que Matignon, on connaît, c'est l'enfer, etc., etc. Combien de temps il faut qu'il ne perde pas les européennes de façon trop violente. Et c'est son premier défi. C'est ce duel avec Bardella.
Sophie Obadia, vous parliez de Marine Le Pen. La voilà qui se retrouve un peu mise de côté parce qu'il y a un face-à-face médiatique en tout cas, préparé, organisé par les journalistes, qui sait. Mais il s'impose de facto. Bardella tout jeune, Attal tout jeune, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et puis Mélenchon, et peut-être Édouard Philippe, sont en train de regarder les jeunes préparer leur affrontement.
Oui, mais alors ce qui est une qualité également de Gabriel Attal, c'est qu'il est jeune, et tout à l'heure Guillaume Tabar le disait, il n'y a pas de jeunisme chez lui. Donc sa priorité, à mon sens, c'est de travailler les sujets éternels, des sujets transversaux éternels. L'école, l'autorité, l'élitisme bien pensé, le travail, les classes moyennes, ça, ce sont des vrais sujets de long terme qui font qu'on n'est pas obsolète, on n'a pas choisi un débat et puis on change le lendemain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'en fait, c'est l'anti-startup nation, vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si on avait mis quelqu'un de très classique, mais jeune et classique. Et effectivement, Bardella ou Marine Le Pen auront certainement du fil à retordre parce que Bardella est excellent. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'est un excellent débatteur, c'est un excellent politique. Mais est-ce qu'il saura tenir ces grands sujets, ces grands débats transversaux comme lui devra le faire à la tête de Matignon ? J'en sais rien.
Alors, ce sera très intéressant parce que Bardella cherchait en quelque sorte un adversaire à sa mesure dans cette compétition européenne. Il s'y attendait pas et depuis plusieurs années, ils se jaugent. Ce sont deux hommes qui se jaugent, qui débattent régulièrement et les matchs se finissent toujours au point, pas par chaos. Et chaque fois, il y a le match, la revanche, la belle, et c'est sans arrêt. Et ils se pensaient quelque part, et notamment Bardella, rivaux pour une présidentielle à peut-être celle-ci, peut-être la prochaine, mais c'est... Et alors du coup, tout s'est accéléré, c'est vrai. Et tout s'est accéléré. On verra ces européennes sont vraiment la première manche du match qui arrivera après.
Et je ne veux pas être partial ou injuste, mais c'est un carré de jeunes, parce que nous avons Glucksmann, Bellamy,
tout à fait,
candidat à la tête de liste, ils le seront bientôt désignés pour la deuxième fois, ce qui montre un engagement européen assez constant chez Glucksmann et chez Bellamy. Et puis vous avez Bardella et Attal. Alors on fait pas de jeunisme, mais est-ce que là il n'y a pas une accélération de la régénération ?
C'est très intéressant parce que quand même, ça c'est une bonne intuition. Vous savez, les jeunes et la politique, et c'est vrai qu'Attal en avait une forme d'intuition depuis très longtemps. Il a dit dans une émission il y a quelque temps, très jeune, qu'il ne croyait pas que les jeunes étaient dépolitisés. Et aujourd'hui, sa nomination parle aux jeunes. Je ne dis pas qu'ils sont convaincus, qu'ils sont séduits, il y en a qui le détestent, il y en a qui l'aiment, ce n'est pas la question. Mais on s'est adressé à eux en le choisissant. Et pour une fois, ils ont l'impression qu'ils sont aussi là, concernés, et qu'on s'adresse à eux. Ça, c'est assez bien vu de la part de Macron.
Sophie Obadia, est-ce que ça vous interpelle de voir ce qu'on appelle vulgairement, je dis vulgairement, les boomers, faire de la place à ces jeunes, ou ces jeunes se faire de la place parmi des vieux dont on a dit qu'ils squattaient les places, qu'ils bougeaient pas, que c'était des vieux crocodiles, qu'ils obscurcissaient l'horizon, et paf, débarque cette trentenaires et ces jeunes quadras.
Non, moi je crois à la cohabitation des générations. Ouais. Ça me paraît une évidence. Dans un pays qui est vieillissant, je vois pas très bien comment on éliminerait tous les boomers d'un coup dans toutes les strates de la société.
Enfin, je me souviens, sous Chirac ou sous Jospin, c'était quand même des gens très installés.
Hein. On est d'accord, les boomers. Mais là, quand même, je note aussi qu'il n'y a pas de femme. Hein, pardon de le dire, mais où sera la jeune femme, la jeune femme qui pourra incarner un mouvement politique.
Et vous avez entendu Elisabeth Borne dire dans la conclusion de son discours qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire pour les femmes en politique.
Et ça, je crois que c'est vrai. Et je crois que c'est vrai.
Ça, c'est...
Je vais vous soumettre une archive qui va vous passionner, vous rappeler des souvenirs à toutes les deux. Un jeune homme de 37 ans vient d'être nommé par François Mitterrand Premier ministre. On est en 1984. Quelques semaines après sa nomination, il passe à l'iconique émission de télévision politique, L'Heure de Vérité. Laurent Fabius.
La jeunesse, c'est pas une recette miracle. C'est un atout, je crois. Mais les problèmes, ils existent, que je sois jeune ou que je sois moins jeune. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi qui ont de grandes capacités. Il ne faut donc pas tomber non plus dans une espèce de mode où on dirait avant tel âge c'est formidable, après tel âge ça ne vaut plus rien. Mais c'est quand même à mon avis pour un chef de gouvernement un certain atout.
Et Fabius de dire, vous savez, on est dans un siècle, dans une époque de bouleversement, les choses vont très vite, il aurait pu le dire hier d'ailleurs, mais il le disait déjà en 84, les choses s'accélèrent, etc., et la jeunesse est un atout.
Surtout qu'aujourd'hui,
il prêche pour sa paroisse. Sophie
Pardon,
Obadia.
Mais aujourd'hui, c'est un vieux sage du Conseil constitutionnel, et il a un poids considérable, vous voyez, donc c'est un boomer de qualité.
La valeur n'a pas attendu le nombre des années.
Il y a beaucoup de points communs entre les deux situations, et en même temps, j'ai fait sortir les images, parce que l'image est aussi importante. Et on voit un Laurent Fabius très calme, très posé, très déterminé lors de sa nomination, très préparé. Alors qu'hier, Gabriel Attal était plus stressé, plus, parce que ça s'est fait de façon plus précipitée, alors que Mitterrand avait apparemment plus préparé Fabius. Et c'est assez intéressant, et il y a 3 ans de différence, mais il y a quand même des parcours, malgré tout, similaires, mais aussi un peu différents. Alors, ils avaient le même enjeu, puisque Fabius avait les élections législatives de 86 à ne pas perdre. Il les a perdues, mais de peu, par rapport à ce qui était prévu. Là, il y a 6 mois seulement, là, c'était 2 ans. Mais surtout, Laurent Fabius, en septembre, dit « lui, c'est lui, moi, c'est moi ». Et moi, je crois que l'enjeu pour Gabriel Attal, c'est de ne pas dire comme il l'a fait hier « moi, c'est lui », mais bientôt de dire « moi, c'est moi ». Parce qu'en fait, c'est cela que les Français attendent. Sinon, ça ne sert à rien. Et Emmanuel Macron a intérêt à ce que son Premier ministre existe réellement.
Un dernier mot, Sophie Obadia. C'est l'arbrisseau qui cache une forêt, c'est-à-dire la nomination des membres du gouvernement, faut pas l'oublier, qui va permettre de faire peut-être des rééquilibrages, d'envoyer des signaux politiques. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron va compléter avec Gabriel Attal le positionnement politique de ce gouvernement où finalement les choses sont dites avec Attal?
Probablement, mais il faut pas oublier non plus que Gabriel Attal était ministre du budget et que donc il connaît aussi, et ça c'est très important, les besoins de chaque ministère et donc les priorités. Là, pardon, je pense à mon ministre de la Justice. Je rappelle quand même que c'est le seul qui a réussi auprès de Gabriel Attal à obtenir enfin, j'ai envie de dire, un budget qui ne soit pas indécent. Donc sans doute que ces rééquilibrages politiques, ils auront aussi un arrière-plan budgétaire. Et c'est important si on veut vraiment relever les défis.
Un dernier mot,
oui. C'est dommage pour Paris. Parce que Gabriel Attal était quand même perçu comme celui qui pourrait éventuellement se présenter à la mairie de Paris. Et nous ne savons pas donc qui pourra challenger lors de la prochaine élection municipale.
Après, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'il pourra diriger l'équipe, animer une équipe qui sera compliquée avec des poids lourds, avec des personnalités fortes qui veulent avoir une relation directe avec le président? Enfin, il y a quand même pas mal de questions qui vont se poser et qui sont pas évidentes parce que oui, il est l'élu entre guillemets, l'élu du prince, mais il faudra après faire ses preuves.
On va se quitter, chère Ruth, chère Sophie, avec un Gabriel de 34 ans. Il compose la ballade qui suit en 1879. À ce moment-là, il a le même âge que Gabriel Attal. Vous avez peut-être reconnu Gabriel Fauré. Merci à vous deux. Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.